Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal vespéral, aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la RDC. La mise au point est du ministère congolais de la communication et médias après la publication par la presse russe des articles qui ont relayé l'approbation d'un tel projet d'accord. Célébration ce 8 mars de la journée des droits de la femme. À Lubumbashi, les femmes atteintes d'albinisme disent éprouver beaucoup de difficultés pour contracter le mariage avec les non-albinos. Elles dénoncent la stigmatisation dont elles sont victimes. Emmanuel Lampard, représentant pays de Médecins Sans Frontières en RDC, est l'invité de ce journal. Après sa visite dans la région de l'Est, il fait un état des lieux des déplacés de guerre de Goma et attire l'attention des autorités congolaises et des humanitaires. Et d'abord, cette information au sud Kivu, près de 15 personnes sont mortes de suite d'une intoxication à la bouillie dans le territoire des Kabarets. Le drame est survenu le matin de ce vendredi 8 mars 2024. Les témoins rapportent que les victimes, pour la plupart membres d'une même famille, ont eu mal au ventre et des malaises immédiatement après avoir consommé la bouillie faite de la farine de soja. Quatre autres personnes intoxiquées sont en soins intensifs dans la région. Un témoin habitant du territoire des Kabarets, dans le groupement de Lugendo, où s'est passé le drame, raconte les faits. Il est au téléphone d'Emmanuel et la Mesua Kabedi.
Il s'agit de 14 personnes qui viennent de trouver la mort ce matin. On dit que c'est à travers la bouillie qu'ils ont consommé le matin, c'est ce qui a causé vraiment ce drame. La bouillie est préparée avec la farine, le sucre, comme vous le savez. Il y a les membres de la famille qui ont consommé cela, il y a mes voisins aussi, les enfants qui passaient pour retirer les autres afin d'aller à l'école, eux-mêmes, ils ont consommé. Alors, il y a eu 14 morts directement, mais il y a d'autres qui suivent les soins. Puisque là, l'origine de cette farine n'est pas encore connue. Mais au débat, c'est cette farine qui était empoisonnée, il y a une personne qui est passée et qui a fait cela, donc l'origine n'est pas encore connue de cela. Mais quand même, c'est la consommation de la bouillie qui a causé des drames. En ce moment, les cadavres sont encore à la maison parce que notre groupement, jusque-là, n'est pas doté d'une ambulance. Il n'y a aucun véhicule qui puisse faire le déplacement de ces cadavres.
Et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet extrait sonore. Dans l'actualité, à présent, aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la RDC. Cette mise au point est du ministère de la Communication et des Médias. C'est après que des articles de presse russes ont relayé l'approbation d'un tel projet d'accord entre le gouvernement congolais et les pays de Vladimir Poutine. Des détails avec Cynthia Bachizina Bizana.
Moscou et Kinshasa ont-ils vraiment signé un accord de coopération militaire? Oui, selon l'agence de presse officielle russe qui, sur son site web, annonce que, conformément à l'article 11 de la loi fédérale sur les accords internationaux de la Russie, le gouvernement approuve le projet d'accord de coopération militaire avec la RDC. Une allégation vite démentie par la partie congolaise dans une déclaration rendue publique ce jeudi. Le ministère de la Communication et des médias souligne que l'accord de coopération dont il s'agit est une démarche initiée par les deux parties, mais qui remonte à 1999. Depuis, ce processus a pris énormément de temps et c'est à peine donc 25 ans plus tard que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce texte. Et cela ouvre des voies à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un tel accord, affirme le ministère de la Communication. Avant de conclure qu'il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour sa mise en œuvre effective. Et la RDC n'en envisage pas non plus dans les conditions actuelles, précise le communiqué.
Au Nord Kivu, pendant ce temps, les affrontements ont opposé ce vendredi l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23 sur plusieurs fronts. C'est notamment dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Selon plusieurs sources, alors que les rebelles ont conquis des nouvelles localités ce vendredi dans les territoires de Masisi, leur avancée dans le nord des Rutshuru inquiète déjà les entités de la Rwindi et celle de Vichumbi au lac Édouard. Des explications de Bernard Nyangi.
Ce vendredi, les combats se sont concentrés autour de la zone de Busendo, dans le parc national de Virunga sur la nationale numéro 2, au nord de Kiwanja, en territoire de Rutshuru d'une part, mais aussi vers le nord-ouest de la cité de Mweso, groupement Bachali Mokoto, au territoire de Masisi. Vers 9h locales, les sources de l'administration coutumière à Masisi indiquaient que les rebelles s'étaient déjà accaparés des localités de Kashuga et Misinga, environ 10 km de Mweso, et avanceraient vers Kalembe, sur les limites avec le territoire de Walikale. Dans le territoire de Rutshuru, après l'occupation de Nyanzale, Kikuku, Kibirizi, Somikivu et environ, les rebelles du 1-23 ont ciblé notamment l'axe Mabenga-Katanda 17 km et l'axe Kanyabayonga, ce qui accroît une pression sur la Rundi, dernier verrou de l'armée, et la zone de Vichumbi, au lac Édouard. Un cadre du Parlement des jeunes dans le Rutshuru appelle le gouvernement à prendre cette menace au sérieux. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, les services de renseignement militaire ont présenté ce vendredi ici à Kinshasa un échantillon de présumés complices des Rwandais et des terroristes RDF M23. Le général-major Sylvain Kenge, qui a présidé cette cérémonie, a indiqué que ces quatre personnes, dont deux députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée, ont été arrêtées à Goma il y a quelques semaines et conduites manu militari ici à Kinshasa. Ils sont accusés par l'armée de faire partie de l'équipe des sensibilisateurs et des recruteurs des jeunes pour le compte des rebelles. Le général-major Sylvain Kenge est au micro de Paul Matendo.
Nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de quatre complices des Rwandais et des terroristes RDF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma. Il s'agit de Kibuya Sabini Hope, c'est lui l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés les moments opportuns. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le quatrième, c'est Mwongia Mamafukulo Cyril. Ce sont des compatriotes qui sont au service des Rwandais, comme vous venez de le constater.
Notez que la cinquième personne originaire du Sud Kivu, mais arrêtée à Goma, sera libérée faute de preuves et sera ramenée dans son village d'origine, a ajouté Sylvain Ekengi. Et puis, attaquer les hôpitaux constitue un acte de crime de guerre et un crime contre l'humanité. Déclaration de l'armée congolaise ce vendredi à Bunia, après l'attaque mercredi dernier par des éléments incontrôlés de la Codeco de l'hôpital général de Drodro, dans la chefferie de Baïmanor, en territoire de Djougou. Une femme hospitalisée a été tuée sur son lit. Plusieurs biens ont été emportés et d'autres saccagés. Selon des sources locales, il s'agirait d'un acte de vengeance après le meurtre d'un jeune homme par des éléments de l'autodéfense Zaïre il y a 4 jours à Largou. Les FARDC mettent en garde tous les miliciens de Codeco et de Zaïre réfractaires au processus de paix. Le porte-parole de l'armée en Ituri est ici au micro de Martial Kizabiamungu.
Ce que nous déplorons dans tout ça est que ce sont les innocents qui sont en train d'être tués, provoqués par les groupes armés des deux communautés qui prétendent défendre leur communauté. Quant aux attaques d'un hôpital, il n'y a pas un autre mot que nous pouvons dire. C'est inacceptable, c'est inconcevable. Ça, c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Nous avons toujours condamné attaquer les hôpitaux, les écoles, les sites des déplacés et voir ces groupes armés Codeco s'attaquer à un hôpital où les patients sont inoffensifs, voire c'est inacceptable et nous condamnons devant la communauté internationale, devant notre justice et que ces faiseurs de troubles doivent être poursuivis, arrêtés, jugés et condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Autre volet de l'actualité dans la province du Maïndombé, la situation aussi bien économique qu'alimentaire ne cesse de se détériorer dans les territoires de Kwamout. Il s'observe là-bas depuis plusieurs mois la pénurie des produits agricoles, conséquence des violences perpétrées par la milice Mobondo depuis près d'une année et 8 mois. La société civile locale indique que les habitants de la cité de Kwamout, chef-lieu du territoire du même nom, et d'autres villages environnants n'ont toujours pas accès aux champs, craignant ces miliciens qui occupent les forêts. Alors que l'agriculture est l'activité principale de ces coins, considérés comme greniers de Kinshasa, de Bandundouville et des territoires voisins. Martin Souta, président de cette structure, s'est confié à Irène Boma.
La situation alimentaire fait grand défaut à Kouamoutou. Tout ce que Kouamoutou bénéficie vient maintenant d'ailleurs. Il faut pour en avoir, il faut aller à Bandundouville, il faut aller à Mouchi et ailleurs. Maïs non plus. La grande cause, c'est la guerre. Parce qu'aujourd'hui, une année, 10 mois que les gens ne fréquentent plus la forêt. Ils craignent les Mobondo qui sont logés dans la forêt. C'est ce qui a causé cette situation dramatique. Nous voyons les enfants mourir avec la maladie. Nutrition, les déplacés qui sont à Kouamoutou souffrent suite au manque d'aliments et de produits agricoles. Cette crise, après la guerre, pouvait continuer même pendant 5 ans. Vraiment, nous demandons aux autorités, tant nationales qu'internationales, de nous assister parce que nous sommes dans les besoins vraiment. Il n'y a pas vraiment la nourriture et les coûts pour en avoir, ça devient vraiment très, très difficile. Nous demandons au gouvernement de prendre des solutions rapides que les gens de Kouamoutou se lance dans ses activités habituelles comme les travaux champêtres pour que la vie devienne stable à Kouamoutou.
En Ituri, par ailleurs, les femmes déplacées du site de Kigonze à Bounia exigent le rétablissement total de la sécurité dans les territoires des Djougou pour qu'elles retournent dans leur village, mener une vie normale. Elles l'ont dit ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ces vulnérables qui ont fui les attaques des groupes armés depuis décembre 2017 disent être fatiguées par la souffrance qu'elles endurent dans ces lieux de déplacement. Martial Kizabiamungu les a visités. Voici son reportage.
Nous sommes au site des personnes déplacées de Kigonze, le plus grand à Bounia, avec plus de 3200 femmes contre 1350 hommes à ce jour. Espérance Goyi, quarantaine révolue, mère de 5 enfants, visage très fondu, déclare avoir déjà fait 2 jours sans manger. Par manque d'assistance humanitaire, il y a plus de 2 ans, elle se réveille chaque matin pour aller faire des petits travaux dans des ménages pour trouver quoi donner à manger à ses enfants, dont la majorité présente des signes de malnutrition. Comme d'autres femmes fatiguées de vivre dans la galère dans ce site, elle manifeste la volonté de retourner dans son village à condition que la paix y soit restaurée.
La vie ici au site est très difficile. Même nos enfants tombent malades à tout moment. Pas de médicaments, pas à manger, pas moyen de faire étudier nos enfants. Que les autorités nous aident à quitter ce site pour que nous retournions dans nos villages car nous sommes fatigués de vivre au site.
D'autres femmes déplacées sillonnent les rues de Bounia pour quémander ensemble avec leurs enfants juste pour leur survie. Depuis le site de déplacés de Kigonze, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire à Lubumbashi, les femmes atteintes d'albinisme disent éprouver beaucoup de difficultés pour contracter le mariage avec les non-albinos. À l'occasion de la célébration de la journée des droits de la femme, elles dénoncent la stigmatisation dont elles sont victimes et continuent de croire en leur avenir. Un reportage de Jean Gandou.
Sophie, la trentaine révolue, est une femme atteinte d'albinisme. Au-delà de la stigmatisation dont elle s'est dit être victime, elle regrette que cela touche aussi les domaines sentimentaux. Après avoir longtemps évolué avec celui qui a eu le courage de lui demander la main, un soir, quelle ne fut pas sa surprise. Ce jeune garçon sur qui elle comptait pour l'aider à faire face au rejet de la société, viendra lui dire qu'il ne pouvait pas réaliser son rêve de l'avoir comme épouse, car pour ses parents, il est hors des questions qu'il prenne pour femme une albinos. Refusant de désobéir à ses parents, le garçon a rompu les relations. Rêve brisé, espoir déchiré. Une autre, Marie, qui a connu le même déboire, indique que l'albinisme n'est pas dans les sentiments ni dans l'intellect, mais juste au niveau de la peau.
Étant qu'une femme atteinte d'albinisme, je suis aussi une personne à part entière. Je suis appelée à être aimée. Fait un certain temps, j'ai été aimée par un homme et on a commencé à évoluer. Juste un certain temps, il s'est retiré de lui-même petit à petit. Deux fois, ce que j'avais constaté quand on évoluait avec lui, il ne voulait pas même présenté hein, auprès de ses amis, auprès même de sa famille, auprès de ses proches, non.
En cette journée consacrée aux droits des femmes, elle demande aux autres femmes atteintes d'albinisme d'être fortes et de continuer la lutte tout en gardant leur personnalité. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'ancien parti au pouvoir au Gabon, le Parti démocratique gabonais, qui a dirigé durant 56 ans jusqu'au coup d'État du 30 août, fait sa mue. Hier jeudi 7 mars, une délégation s'est rendue à la résidence privée de l'ex-président Ali Bongo pour lui annoncer sa déchéance de la tête du parti, officiellement pour des raisons de santé. Dans le nord-ouest du Nigeria, des bandits locaux ont de nouveau attaqué l'école de Kuriga dans la région de Kaduna et kidnappé près de 300 élèves hier jeudi 7 mars au matin. Le même jour, près de 100 femmes ont été portées disparues.
L'invité.
Emmanuel Lampard, représentant pays de Médecins sans frontières en RDC, est l'invité de ce journal. Après sa visite dans la région, il fait un état des lieux des déplacés de guerre de Goma et attire l'attention des autorités congolaises et des humanitaires. Il s'entretient avec Jeff Opela.
Bonjour Emmanuel Lampard.
Bonjour Jeff.
Vous revenez du Nord Kivu, vous avez parcouru la ville de Goma. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la présence armée dans les camps et autour des camps? Et quel danger cela représente pour la population des déplacés civils qui sont dans les camps?
Vous le savez, Médecins sans frontières, c'est non seulement l'action médico-humanitaire, c'est aussi le témoignage, c'est aussi la prise de parole, et notamment pour ceux qui n'ont peut-être pas de voix. Alors certes, les dernières semaines, ensemble avec le CICR, ensemble avec OCHA et d'autres, on s'est mobilisés pour demander que notamment les lignes de défense ne soient pas aux abords des camps, au sein des plus vulnérables, avec tout ce que ça amène avec en termes d'insécurité. Même si c'est juste une perception, la guerre se joue désormais aux abords des camps. Mais à cela s'ajoute maintenant que vous avez autour des camps et des sites informels de Lushagala Chabindou, les camps de Wazalendo en uniformes divers, armés, vus, j'en témoigne. Ces camps sont à proximité. Et non seulement ces camps sont à proximité, aujourd'hui, il y a de plus en plus une présence volontaire dans les camps. Et donc nous voyons clairement une tendance, et ça c'est vraiment très récent, hein, sur les dernières 2-3 semaines, nous voyons davantage de harcèlement, violence faite à la femme, atrocité. Quoi, vous êtes au courant, il y a une femme enceinte tuée par balle. Et ce n'est qu'un exemple, nos équipes témoignent davantage d'un climat d'insécurité.
C'est-à-dire lorsqu'on s'y balade, on peut voir dans les camps les hommes armés, et on peut voir les lignes de défense autour des camps?
Tout à fait. Je crois que les dernières semaines, aussi Médecins sans frontières s'est mobilisé parce que les bombardements, les lignes de défense aussi, les tirs plutôt offensifs, défensifs, se positionnaient aux abords des camps. Ça a un impact en termes de déplacés pour nos équipes, pour les patients qui sont en train de consulter, hospitalisés dans les structures. C'est assez énorme. Imaginez-vous une femme enceinte dans la maternité, avec cela, à quelques mètres.
Peut-on savoir dans quelles conditions le MSF travaille à cette situation qualifiée de catastrophique au niveau du Nord Kivu?
On a essayé de vous décrire la précarité des conditions de vie que nous avons même qualifiées de survie des déplacés, davantage plus grands en nombre. Nos équipes se démènent au mieux pour offrir notamment les soins, les besoins essentiels en termes de eau et hygiène, parfois font des distributions ponctuelles comme cette semaine vers Lushagala et Chabindou. Mais c'est clair que cette insécurité grandissante aux abords et dans le camp fait en sorte que les heures de présence, notamment de l'ensemble des équipes, est davantage contraignée. Et bien évidemment, l'impact des conditions, même si on essaye de se mobiliser au mieux, à la longue, ben ça vous déchire. Les choix que nos équipes doivent constamment faire, aussi pour s'adapter à ce contexte très évolutif, très dynamique, ça pèse énormément sur les physiques et sur les états mentaux. Ça, c'est nos équipes. Imaginons-nous alors les civils vulnérables déplacés, qui parfois se sont déplacés pour la deuxième, troisième fois.
Après ce que vous avez vécu, quel est l'appel des MSF?
Je crois pour l'ensemble des acteurs, chacun dans leur rôle et avec leur responsabilité, les deux messages clés, c'est il faut être présent et il faut mobiliser cette réponse. Oui, en priorisant. Oui, en faisant des choix. Oui, on peut en appeler à plus de moyens. Mais je crois clairement aujourd'hui, il faut avoir comme objectif que aussi les nouvelles vagues puissent bénéficier des standards minimums en termes de réponse lors d'un déplacement interne. Deux, c'est un clair appel, un langage clair et ferme pour la protection des civils plus vulnérables déplacés.
Monsieur Emmanuel Lampard, merci.
Notre invité Emmanuel Lampard répondait aux questions de Jeff Opela. Ce journal est à présent terminé. Il a été coordonné et supervisé par Noëlla Luzitu-Kabambi. Jean-Claude Nsiala a assuré la mise en onde. Vous avez la possibilité de les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.